Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je suis aux Assises du journalisme, d'où le bruit derrière, et avec Lou Espargilière. Donc bonjour à toi.
Bonjour.
T'es rédacteur en chef de Vert, c'est un média indépendant qui raconte toute l'actualité écologique, mais en toute positivité, avec même un brin d'humour parfois. Et donc, pour commencer, quelle est un peu l'histoire de ce média ? Pourquoi l'avoir créé ?
Alors, Vert, c'est un média qui est né, qu'on a lancé officiellement en début 2020. Au tout début, c'était moi tout seul dans mon coin. En gros, en 2019, c'était un été ultra chaud. On a battu tous les records de température en France. Moi, j'étais journaliste indépendant et j'ai galéré à fond pour vendre des articles. Donc, vraiment, j'étais très très mauvais pour ça. Et en fait, j'arrivais en fin de droit au chômage, donc j'avais genre la fin du mois et la fin du monde qui se rapprochaient de moi, donc j'étais absolument terrifié. Et en fait, un beau jour, alors que je m'étais dit que j'allais arrêter avec le journalisme parce que décidément j'y arrivais pas et que j'allais faire autre chose, genre maraîcher ou bosser dans une biocoop ou que sais-je, j'ai eu l'idée de créer Vert. Et donc l'idée initiale de Vert, c'était de faire un petit journal qui se lit en quelques minutes par jour et qui permet à tout le monde de s'informer facilement et gratuitement sur tous les sujets liés à l'écologie. Et donc au tout début, Vert, c'était une newsletter quotidienne que j'écrivais intégralement. Et c'était un travail titanesque, enfin, ça n'avait aucun sens. Mais voilà, je me levais à 6h du matin, j'écrivais non-stop jusqu'à midi. Après, je faisais une sieste d'une heure parce que j'étais par terre. Et l'après-midi, je recommençais à bosser. Et en fait, depuis 2020, on a créé plein d'autres choses. Maintenant, on a plusieurs newsletters. On a un site web qu'on développe beaucoup en ce moment avec beaucoup d'articles. On a un compte Instagram qui est très suivi vers le média. On a plus de 200 000 followers. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire sur tous ces supports, c'est vraiment de permettre aux gens de s'informer de manière simple et funky. C'est un peu un slogan de vieux et je pense que voilà, les trentenaires auront la référence de cette chanson. Mais voilà, sur des thématiques qui sont extrêmement compliquées et extrêmement stressantes. Et le but, à la fin, c'est de permettre à chacun de faire des choix plus éclairés à l'échelle individuelle, mais aussi en tant que citoyen. Pour que collectivement on se sorte de l'urgence écologique.
Et donc sur ces thématiques environnementales, toi, quel a été un peu ton déclic pour te spécialiser dans du journalisme environnemental et pourquoi aussi se spécialiser dans ce journalisme ?
Alors j'aimerais juste dire un truc. Au début, je pensais que Vert c'était un média spécialisé sur l'écologie, mais en fait on est un média généraliste qui parle vraiment de toute l'actualité, mais avec cette grille de lecture de l'urgence écologique. Je pense que la différence elle est assez énorme. Et les journalistes qu'on a recrutés dernièrement, c'est pas des journalistes spécialisés, c'est justement on a un journaliste qui vient du Parisien, qui a une bonne connaissance de ces enjeux, mais c'est pas un expert, tu vois. Et le but du jeu, c'est vraiment de trouver comment parler à des gens qui sont pas experts, pas militants, qui ont pas bac plus 12 de ces sujets-là, alors que voilà, en gros, il y a des médias spécialisés qui parlent bien de ces sujets, il y en a déjà, tu vois. Donc une fois que j'ai dit ça, c'était quoi ta question ? Et qui part tout seul.
Moi-même, je me souviens plus maintenant. Quel a été ton déclic se spécialiser
Oui, donc pour me spécialiser, puisqu'à l'époque je l'étais. Donc en gros, moi j'ai bossé pour plein de médias différents. Et en 2018, j'ai bossé pour les dernières nouvelles d'Alsace, à Strasbourg, donc grand quotidien régional. Et à cette époque-là, je travaillais sur les questions sociales. Et en fait, j'ai tenu les deux rubriques sociales et environnement du service région des DNA pendant la crise des Gilets jaunes. Et en fait, c'est un moment où ces deux thématiques-là elles se sont vraiment entrechoquées dans l'actualité. Parce que je rappelle peut-être pour les plus jeunes, la crise des Gilets jaunes, elle est née parce qu'il y a eu une taxe carbone qui a été mise sur les carburants et qui a fait que beaucoup de gens qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de prendre leur voiture pour aller au travail, et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très compliquées de ce point de vue-là, en fait, ont hyper mal vécu ça. Et donc, on a opposé la fin du monde, c'est-à-dire l'écologie, à la fin du mois, c'est-à-dire le social. Et quand je dis « on », c'était pas des écolos qui étaient au pouvoir, hein, c'est pas des écologistes qui ont pensé à cette mesure-là, mais c'est aussi pour ça que je démine un peu le truc de l'écologie punitive. Souvent, l'écologie punitive, c'est quand elle n'est pas portée par des écologistes. Mais bon, je ferme la parenthèse. Et donc, en fait, j'ai pris conscience du fait que le social et l'écologie, c'était le même sujet, en fait. C'est les mêmes mécaniques de domination, de justice, etc. Mais posées de manière différente. Et donc, je me suis pris de passion, moi qui étais plutôt sur des thématiques sociales, je me suis pris de passion pour l'environnement à ce moment-là. Et en fait, bah voilà, quand tu commences à prendre conscience de ce qui se passe, quand tu commences à comprendre ce qu'il y a dans les rapports scientifiques, qu'est-ce qui nous attend vraiment, pour moi c'est un voyage sans retour. Et j'ai pris ça comme c'est plus qu'une claque, c'est un peu une forme de révélation, on va dire. J'ai pas envie non plus d'employer le vocabulaire biblique, mais et en fait je me suis noyé là-dedans, je me suis vraiment immergé là-dedans. Et voilà, et c'est clair que quand tu fais ça, tu vois le monde d'une toute autre manière ensuite. Et donc c'est pour ça que je parle vraiment de pas de médias spécialistes, mais de médias généralistes, qui adoptent juste une autre grille de lecture du monde.
Oui, donc qui lie vraiment les luttes sociales aux luttes environnementales aussi. Et donc avant, tu as dit que le but un peu, c'était de rendre accessibles les sujets environnementaux à tous, à travers Vert. Donc comment tu fais pour rendre ces sujets accessibles mais sans tomber non plus dans la simplification excessive de ces sujets ?
Alors c'est une bonne question et ça fait 5 ans qu'on s'arrache le crâne au quotidien pour ça, mais donc comme je l'ai dit, ces informations elles sont à la fois hyper compliquées et hyper stressantes. Une des raisons pour lesquelles le grand public n'est pas informé, c'est pour ça. Et donc nous, dès le début, dans la newsletter, on essayait de faire des articles courts, simples, vraiment des formats qui se lisent rapidement, parce qu'aujourd'hui en plus les gens consomment de l'information de manière beaucoup plus rapide, et donc je pense que déjà il y a quelques années les gens ne prenaient pas 10 minutes pour lire un article sur l'écologie, mais c'est encore moins le cas aujourd'hui. Et donc il faut vraiment se mettre au niveau du public et comprendre quelles sont les habitudes de lecture, de consommation de l'information, pour prendre toutes ces informations là qui sont hyper importantes et les faire parvenir à ce public. Et donc c'est un gros travail de vulgarisation, de pédagogie. Tu vois, par exemple, le GIEC, donc ces centaines de scientifiques internationaux qui ont publié leur dernier énorme rapport ces dernières années. Donc c'est le fruit de d'années et d'années de recherche, c'est des milliers d'études, c'est des milliers et des milliers de pages. Je pense que d'ailleurs il n'y a même pas un scientifique du GIEC, peut-être à part un ou deux, qui ont lu le truc en entier. Enfin tu vois, c'est de dire le volume, de la complexité. Eux ensuite ils font un rapport avec un résumé qui est à destination des politiques, des journalistes et tout, donc nous on arrive à ce moment-là, on essaye de résumer les informations principales et nous on continue ce travail de tamis jusqu'à arriver à le format le plus court qu'on ait fait, c'était un carousel sur Instagram en 10 slides, où en 10 slides on essaye de résumer l'état des connaissances sur le climat et des milliers d'études. Tu vois. Donc c'est une tentative. On demande aux scientifiques c'est quoi les points les plus importants, qu'est-ce qu'il faut absolument que le public connaisse et tout, et en fait on essaye de faire en sorte que si on balance trop d'infos, en fait on va perdre les gens, si on simplifie trop, on va perdre l'info, et donc il faut vraiment trouver le juste milieu. On a essayé d'autres trucs, j'ai résumé aussi ce rapport du GIEC dans une vidéo de 3-4 minutes sur Combini, où en fait j'essaye de prendre des anecdotes, des choses qui vont toucher le public, tu vois, de commencer par quelque chose qui soit très palpable, réel pour les gens, avant de commencer à partir un peu dans d'autres strates et de vraiment dézoomer sur le climat mondial. Mais en gros, il y a toute une partie de la profession aujourd'hui qui réfléchit vraiment aux meilleures manières de passer ces informations-là, parce qu'on a bien compris que parler du changement climatique en montrant des ours polaires, c'est pas du tout mobilisateur, quoi. On s'identifie pas à un iceberg, par exemple, quoi.
Donc c'est un vrai casse-tête du quotidien, finalement. Et pour se plonger un peu dans cette ambiance, on parlait avant de lier les luttes sociales aux luttes environnementales. Tu l'as bien démontré dans ta chronique sur Mayotte, donc on va tout de suite l'écouter.
On le sait maintenant, la crise climatique agit comme un révélateur des inégalités. Mayotte, département de loin le plus pauvre de France, cumule les vulnérabilités. Les trois quarts de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans des habitats précaires, voire des bidonvilles. L'accès à l'eau est de plus en plus compliqué. Les infrastructures sont défaillantes. L'archipel connaît aussi une forte immigration en provenance des Comores, de Madagascar ou de la région des Grands Lacs en Afrique. Résultat, beaucoup vivent en situation irrégulière, dont de nombreuses femmes accompagnées de jeunes enfants ou des mineurs isolés. Une population particulièrement fragile et méfiante qui a peur de s'adresser au pouvoir public et une population qui a payé un très lourd tribut à Chido. Pour le dire simplement, si un tel cyclone avait frappé un département plus résilient, mettons le Finistère, les conséquences auraient été bien moins désastreuses. Le bilan est encore impossible à établir, mais avec des centaines à des milliers de victimes potentielles, il pourrait s'agir de la catastrophe la plus meurtrière en France depuis l'éruption du volcan Montagne Pelée qui avait fait 30 000 morts en Martinique en 1902. Comme l'a expliqué la docteure Friedrich Otto, de l'Imperial College London toujours, à Mayotte, les victimes de la pauvreté sont devenues les victimes du changement climatique.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et c'était la chronique sur Mayotte de Lou qui est aujourd'hui avec nous. Donc cette chronique qui s'est faite dans le cadre de l'émission La Terre au Carré par Mathieu Vidard sur France Inter. Donc pour te citer, t'as dit à la fin de ta chronique, à Mayotte, les victimes de la pauvreté sont devenues les victimes du changement climatique. Donc on en a parlé avant de ce lien intrinsèque de la crise climatique avec la justice sociale. Donc pourquoi lier les causes environnementales aux luttes sociales et qu'est-ce qu'elles ont à s'apporter l'une de l'autre ?
On pourrait se dire qu'on va résoudre la crise climatique au détriment de toute une partie de la population. En fait, c'est pas compliqué. Si tu tues tous les humains, t'as résolu la crise climatique. La vraie question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte de résoudre la crise climatique sans, et même en résolvant à la fois les crises sociales. C'est aussi vieux que les objectifs de développement durable de l'ONU, mais en gros, l'idée, c'est pas de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre en affamant une partie de la population. Donc en fait, et à contrario aussi, d'un autre côté, les choses qui aggravent la crise climatique sont aussi des choses qui aggravent la crise sociale. En gros, la crise climatique, elle est un révélateur des inégalités. Aujourd'hui, les gens qui sont le plus responsables de la crise climatique, c'est les gens les plus riches et dans les pays les plus riches. Aujourd'hui, un Américain, il émet 200 fois plus de gaz à effet de serre qu'un habitant du Niger. Bon voilà, alors tu vois, ça clôt aussi le débat sur on est trop nombreux. Bah, si on est trop nombreux, on est plus trop d'Américains que trop d'Africains, tu vois ce que je veux dire. Et souvent, c'est une pente glissante qui est utilisée pour dire mais regardez les Africains, ils font plein d'enfants. Donc c'est hyper important d'expliquer que la crise climatique, elle ne naît pas de nulle part. Elle a des responsables. Ça ne veut pas dire qu'il faut pointer du doigt et dire que tous les Américains ou tous les riches sont méchants. Mais il faut être très clair là-dessus. Il faut être très clair sur le fait que c'est à eux de faire le plus gros des efforts, même si tout le monde, d'une certaine manière, doit faire des efforts. Et surtout, ce n'est pas les plus riches qui subiront le plus les effets de la crise. Donc, ils sont le plus responsables. Ils seront les moins impactés. Et donc, tu ne peux pas faire accepter à la population, aux populations françaises ou d'autres pays, une transition où, finalement, c'est déjà ceux qui trinquent le plus qui seraient en plus en capacité de faire le maximum d'efforts. C'est faux. Et donc, c'est aussi pour ça que la crise des Gilets jaunes, elle a été un révélateur de beaucoup de choses. C'est qu'on a demandé à des gens qui étaient déjà au taquet de ce qu'ils étaient capables de fournir, qui étaient dans une situation sociale parfois compliquée. Et on leur a dit, en plus de tout ça, c'est vous qui allez payer une taxe sur le carburant. Je dis surtout pas qu'il ne faut pas mettre de taxes sur le carburant. Il y a beaucoup d'autres manières de le faire. Il faut proposer des alternatives. On ne peut pas arrêter de prendre sa voiture du jour au lendemain quand il n'y a pas de transport en commun, qu'il n'y a plus de services publics, qu'il n'y a pas de piste cyclable, qu'il n'y a pas de train ou que sais-je. Mais voilà, en gros, tu ne peux pas faire la transition écologique, ou tu ne peux pas faire de la justice climatique sans faire de la justice sociale et vice-versa. Quoi. Et donc, je pense que ce n'est pas militant que de le dire, c'est purement factuel. On fera pas, on changera pas, on ne répondra pas à la crise climatique sans répondre à la crise sociale.
Très bien résumé. Et on l'a vu, tu fais aussi des chroniques sur France Inter à côté de ton média vert. Donc forcément, je pense que le traitement médiatique de cette question environnementale, il n'est pas le même entre France Inter et que ce soit aussi les DNA où tu as été. Justement, quelle différence de traitement médiatique tu vois dans tous ces médias sur la question environnementale ?
Comment tous les médias français traitent
non,
la question climatique
médias, mais...
J'espère que l'émission elle va durer 5 ou 6 heures. Non, déjà il y a une chose, c'est que Vert, nous on est un média qui est né de l'urgence écologique d'une certaine manière. On essaie de répondre à ça avec les moyens qui sont ceux du journaliste. On n'est absolument pas des militants, on n'est pas proche de partis ou d'ONG. Par contre, on se bat pour le droit de savoir des citoyens sur ces sujets-là. Et on considère que notre métier doit servir à quelque chose socialement et politiquement. Et politiquement, au sens démocratique du terme. Donc nous, en fait, c'est sûr que notre média, il est né tout entier pour répondre à ce problème de « les gens ne sont pas assez informés et du coup, ils ne font pas forcément les bons choix ». Donc, on ne va pas dire qu'à d'autres médias qui sont là depuis 10, 100, 200 ans, qu'ils ne font pas un bon taf et qu'il faut les discréditer. Au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que des gros médias qui ont un vrai savoir-faire, qui ont des équipes énormes de journalistes, qui font du très bon boulot par ailleurs sur plein de sujets, faire en sorte de les aider à monter en niveau pour que collectivement, la presse, les médias français, les médias internationaux s'emparent de plus en plus de cette question-là. Et en fait, il y a plein de grands médias qui sont vraiment montés en niveau ces dernières années. Le Monde, qui était déjà assez bon, ils sont vraiment excellents. RFI, qui parle à des centaines de millions de personnes dans le monde francophone. Libé fait du bon boulot, et France Inter, avec notamment La Terre au Carré. C'est pas une émission qui a 50 ans, La Terre au Carré. Avant, c'était une émission que science qui s'appelait La Tête au Carré. Maintenant, c'est vraiment science, mais avec un gros regard écologie. Donc c'est déjà la preuve d'une montée en intérêt, en tout cas, de France Inter pour cette thématique-là. Après, c'est clair que, moi, je considère que c'est pas du tout assez. Et en fait, si c'était assez, Vert, on pourrait arrêter, tu vois. Finalement, si on a rempli notre mission et que ça y est, tout le monde fait une super info sur l'écologie, si on sert plus à rien, moi, je serais ravi qu'on débranche le truc. Et, tu vois, et le jour où la crise climatique sera résolue, moi, je serai au chômage et avec bonheur, quoi. Et donc, il y a beaucoup de journalistes dans beaucoup de rubriques, dans beaucoup de formats, des quotidiennes, des matinales, des choses comme ça, qui sont pas assez formés, qui comprennent pas ces enjeux-là et qui, du coup, continuent d'adopter un regard très économique sur la situation, tu vois. finalement la croissance est vraiment, c'est tellement important que ça passe au premier plan bien avant toutes les problématiques environnementales. Quand bien même l'environnement c'est quand même, enfin, la crise climatique elle menace quand même nos conditions de vie sur Terre. Alors en France on peut se penser un peu à l'abri, c'est sûr qu'on se fera moins balayer que des pays du Sud. Mais voilà, c'est un, enfin, pour des gens de ma génération et qui ont mon niveau de compréhension, c'est évidemment la question absolument fondamentale et majeure, et il faudrait poser toutes les questions à des personnalités politiques avec ce regard-là, cette grille de lecture de l'actualité. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Combien de temps ça va mettre? Qu'est-ce qu'il faudra pour que ça soit vraiment le paradigme majoritaire dans l'esprit des journalistes? Bah, j'espère le moins de temps possible.
Oui, et je pense qu'il y a aussi tout l'enjeu de capter un peu un autre public quand on informe sur ces sujets. Donc justement, vous vous dites généraliste, et par rapport aux médias spécialisés qui ciblent vraiment un public particulier qui peut être intéressé par ces questions, vous, comment vous faites pour capter justement un autre public à Vert? Enfin, oui, comment vous faites?
Alors comme je le disais, il y a vraiment le côté pédagogie. Parce qu'en fait, si tu comprends pas ces sujets, tu vas t'en sentir exclu et donc tu vas pas lire d'informations là-dessus. On essaye encore une fois, déjà les gens qui lisent la presse, en moyenne, ils ont Bac+5, tu vois. Donc déjà, si on propose de l'information écrite, il faut qu'elle soit vraiment très simple, très accessible. Donc on fait un gros boulot, surtout sur Instagram, pour résumer au maximum l'information, trouver des manières de faire des titres, de mettre des images, déjà visuellement, tu vois, pour que l'info donne envie de lire, d'en lire plus. Voilà, il n'y a rien de pire que, tu vois, un titre à rallonge, un truc hyper austère et tout, quand même le contenu de l'article serait bon après. Si t'as perdu tout le monde au moment du titre, c'est raté, tu vois. Donc il y a une grosse réflexion là-dessus, et là du coup, il y a plein de médias qui font du super boulot depuis très longtemps là-dessus. Hein. Nous en vrai, Le Parisien, qui sont assez loin d'être exemplaires sur leur traitement éditorial de la crise climatique, ils sont excellents pour trouver des bons titres et des images qui donnent envie de lire, tu vois, sans après mentir sur le contenu de l'article. Ensuite, on manie beaucoup l'humour, le second degré. On a pas mal de dessins de presse. On a notre ami Gaëtan Gabriel, que peut-être certains auditeurs connaissent, qui est notre influenceur de l'équipe et qui fait des vidéos qui jouent un peu sur des trends Instagram, TikTok, pour essayer de mettre des infos sur l'écologie. Donc il va faire des vidéos vraiment de 5 secondes, un peu à la con et tout, mais en fait, hop, il arrive à glisser une info. Et nous, ensuite, par exemple, dans la description de la vidéo, on va beaucoup plus creuser l'info. Et ça fait qu'on arrive à jouer sur les codes des plateformes pour ensuite... l'idée, c'est d'avoir des informations de plus en plus importantes, quoi. Et donc, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans... tu vois, on pointe du doigt les gens qui sont réellement responsables de la crise climatique et on n'accuse pas les citoyens qui sont pas capables de certains changements d'être des criminels climatiques. Mais donc voilà, l'humour, la pédagogie, le ton des réseaux sociaux, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on arrive à informer un public assez large. Et il y a des gens qui sont pas forcément, encore une fois, dont c'était pas forcément la préoccupation première. Ça c'est hyper important, on a besoin de convaincre des gens qui sont pas déjà convaincus. Et c'est clair que si on fait un truc trop spécialisé, trop... avec un ton qui serait plus militant, on parlera des... Enfin, c'est très bien, il faut des médias qui parlent aux gens qui sont déjà convaincus, absolument. Et nous, c'est vraiment pas ça qu'on essaie de faire, quoi.
Ouais, et justement, les réseaux sociaux, ils jouent tout un grand, grand rôle, je pense, dans votre manière d'informer. Donc on va justement écouter un court extrait sonore qui explique votre projet Chaleur Actuelle, et tu nous diras après de quoi ça parle.
Je sais pas si vous vous rappelez, mais en juillet dernier, on a eu bien chaud.
Et cette fois, c'était pas à cause du climat.
Donc le RN qui arrive en tête...
4 mois plus tard, l'extrême droite est présente en masse à l'Assemblée et dans les médias, et elle se rapproche de plus en plus du pouvoir.
Si elle peut continuer à raconter ses dingueries sur le climat comme sur tous les autres sujets, et pourrir le débat public, c'est au moins pour ces deux raisons.
Elle peut compter sur des médias aux mains de milliardaires qui mènent un vrai combat culturel.
Et nous, on n'est pas outillés pour décrypter ces fake news et argumenter avec les gens qu'on aime.
À Vert, ça fait des années qu'on se défonce pour décrypter l'extrême droite, ses climato-sceptiques et ses médias. Mais au vu de l'urgence, il va falloir qu'on passe la vitesse supérieure. Et ça, on va le faire avec vous.
Pour que tout le monde apprenne à débunker leurs mensonges.
Et sache ce qu'il se passerait pour les humains et le climat si le RN arrivait au pouvoir.
On lance un grand projet qui va s'appeler
Chaleur Actuelle.
Eh, vous avez la ref ?
Chaleurs Actuelles, ce sera une nouvelle rubrique d'Envers avec des décryptages et des enquêtes sur l'extrême droite et ses climato-sceptiques.
Une newsletter toute neuve pour rester chaud bouillant toute l'année.
Et un poster sur les mythos du climat pour qu'on monte un niveau et qu'on sache enfin comment agir ensemble.
Et pour ce gros projet vital avant les prochaines élections, on a besoin de vous.
Pour payer les salaires de nos journalistes et permettre à tous nos contenus d'être en accès libre pour que tout le monde ait ses infos, il nous faut 100 000 euros.
Alors devenez notre milliardaire, soutenez Chaleurs Actuelles et recevez tous les petits avantages qu'on a prévus pour vous remercier.
Vous trouvez pas qu'il fait chaud ici ?
Vous êtes toujours sur Radio Campus et vous venez d'écouter la vidéo de présentation du projet Chaleur Actuelle qui a été lancé il y a quelques mois. Donc celui-ci décrypte l'extrême droite, ses climato-sceptiques et ses médias. Donc on est avec Lou qui est rédacteur en chef de Vert, qui a lancé le média qui a lancé ce projet. Donc déjà, pourquoi avoir fait ce projet? Oui, pourquoi?
Donc comme je l'ai dit, nous on n'est pas, de fait on traite beaucoup plus des sujets environnementaux que d'autres sujets, mais en fait on a envie d'élargir vraiment le champ, et ce qu'on est en train de voir quand même depuis plusieurs années, mais avec une accélération vraiment, et là on le voit avec Trump et Musk en ce moment, ça nous saute au visage, mais c'était peut-être un peu moins clair il y a quelques temps, qu'en fait il y a un lien entre l'extrême droite, la désinformation sur tous les sujets, mais notamment l'écologie, les big tech, les grandes compagnies, les GAFAM qui ont toutes prêté allégeance à Donald Trump. Et donc en fait, on avait envie de trouver une nouvelle rubrique, un nouveau projet qui raconterait tout ça, qui raconterait la désinformation, qui raconterait comment l'extrême droite se sert de l'écologie, soit pour recruter avec une vision de l'écologie un peu zinzin, soit pour antagoniser, pour créer des clivages politiques. Et donc voilà, l'écolo aujourd'hui, pour une partie de l'extrême droite, c'est vraiment l'épouvantail. Par définition, un épouvantail, c'est pas une personne, c'est pas un vrai discours. Donc ils arrivent à créer une fausse image de l'écologie des écologistes qui leur permet d'engranger des voix. Et aujourd'hui, les médias qui pratiquent le plus la désinformation aux États-Unis, en France, mais encore ailleurs, c'est des médias d'extrême droite, et notamment les médias du groupe Bolloré. Je pense qu'il faut être extrêmement clair. On n'est vraiment pas du genre à taper sur les autres médias. Au contraire, on sait que voilà, il y a beaucoup de médias qui ont des contraintes économiques, qui ont des difficultés, qui ont une histoire, une ligne et tout. Donc on n'est vraiment pas... Tout à l'heure, je parlais du Parisien, mais j'ai un grand respect pour le Parisien. J'aime beaucoup ce journal. Les médias du groupe Bolloré sont des adversaires. Ils ne sont pas juste des adversaires politiques, ils sont des adversaires parce qu'en fait, ils ont envie de détruire la réalité factuelle des choses. Ils ont envie de détruire la confiance que les gens ont dans les scientifiques, dans les journalistes, dans les politiques. En fait, ils sont en train de détruire le réel. Et donc, en fait, une fois qu'ils auront fait ça, si on les laisse faire, on pourra raconter tant qu'on veut ce qu'il y a dans les rapports du GIEC, ça ne servira plus à rien. Si les gens n'ont plus confiance dans les journalistes et dans les scientifiques, eh ben, on ne sera plus des émetteurs d'informations et on aura perdu. Et ce qu'on est en train de voir aux États-Unis avec Donald Trump, qui interdit, il y a une liste de 120 mots qui sont interdits, ou en tout cas fortement découragés, d'utiliser sur tous les sites publics, mais aussi dans toutes les publications académiques financées par l'État américain. C'est catastrophique. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment en train d'assister à une destruction fasciste. C'est pas, du coup, encore une fois, c'est pas mon avis. Hein. Tu l'auras, j'ai fait un papier là-dessus sur le site de Vert où on interroge Cécile Alduy, qui est une sémiologue spécialiste de l'extrême droite. C'est exactement ce qu'ont fait les fascistes, c'est exactement ce qu'ont fait les nazis. Casser le sens des mots, casser la réalité, et y compris la réalité historique qu'il y a derrière ces mots, pour en fait détruire tout ce qu'on a objectivé, le fait qu'il y a des inégalités, le fait qu'il y ait des gens qui aient plus d'argent que d'autres, qu'il y ait des gens qui soient plus responsables que d'autres. Donc voilà, en fait, pour nous, il y avait aussi cette urgence un peu de sauver le réel avant de sauver le climat. Et c'est vrai que du coup, la question climatique, en ce moment, elle est en train de passer vraiment au second plan parce que, en fait, on a une attaque sans précédent sur la démocratie, qu'il y a des acteurs, et c'est ça qu'on veut raconter dans le projet Chaleurs Actuelles. Alors c'est, enfin, là, je le dis de manière un peu, je parle un peu comme un journaliste, mais en gros, il y a des formats courts, il y a des brèves, il y a des dessins de presse, il y a des interviews. Tout ça est en accès libre et gratuit. Donc comme tout ce qu'on fait à Vert, les gens peuvent s'abonner gratuitement sur le site de Vert. Et l'idée, c'est pas de faire un truc élitiste, justement, encore une fois, c'est de permettre à tout le monde de comprendre ces enjeux absolument fondamentaux, parce que je pense que c'est pas clair encore pour une grande partie du public que notamment le groupe Bolloré, c'est une politique, c'est une stratégie active de désinformation. Et on pense, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que Cyril Hanouna est juste un bouffon, un mec qui fait un peu des blagues et tout, et on n'a pas compris qu'il y avait un vrai projet politique derrière.
Ouais. Et donc tout l'enjeu pour vous d'être un média indépendant finalement, donc pour toi, est-ce que c'est impératif d'être indépendant, ou en quoi ça l'est?
Alors pour moi, c'est absolument indispensable que des journalistes d'une rédaction soient capables d'écrire sur absolument tous les sujets sans aucune forme de pression. Alors évidemment, il y a toujours des pressions. Je veux dire, un journal, il faut qu'il marche. Donc on peut pas juste faire des articles pour se faire kiffer sur les sujets qu'on aime en se disant on s'en fout si les gens lisent et voilà. Mais en revanche, c'est vraiment indispensable de trouver des manières de grandir et de se développer en ayant en tout cas le moins de liens possible avec les entreprises, avec des partis politiques, avec toute forme de pression de l'argent ou politique. Et donc à Vert, on a un modèle économique. Nous, on est 90% de nos revenus en 2024, c'était les dons de particuliers. On a 6000 personnes qui nous soutiennent tous les mois avec un don mensuel pour nous permettre de grandir. Et du coup, on a créé le club de Vert. Et donc ces personnes-là, on leur pose des questions. Quand nous, on se pose des questions sur des choix qu'on n'arrive pas à trancher dans la rédaction, on leur demande leur avis. on les invite à des apéros où il y a des, on fait une grande interview avec une personnalité et après on boit des coups avec cette personnalité. On a fait un apéro avec notamment Thomas VDB et Audrey Vernon, qui sont tous les deux chroniqueurs et humoristes. Et voilà, on a bu des bières avec eux et avec le public, donc c'est hyper sympa. Et donc on essaie en fait de créer une communauté où les gens comprennent ce que c'est un média indépendant, comprennent pourquoi il y a besoin de financer ça. Et en fait aujourd'hui, payer pour l'information, c'est un acte citoyen qui est hyper important, parce qu'une information qu'on paye pas, c'est une information qui est payée par la publicité, c'est une information qui est payée par des influences extérieures, qui est payée par... En fait voilà, si vous payez pas pour l'info, sauf les médias, mais en fait vous payez pour l'info, les médias publics, en fait on les paye avec nos impôts. Donc c'est de l'argent qui sert vraiment à financer du bon journalisme. Mais si vous ne payez pas vos médias privés, en fait, c'est qu'il y a un loup quelque part, quoi.
C'est qu'il y a une information biaisée, finalement. Et donc, on voit bien, toi, tu es journaliste engagé. Donc, comment tu fais pour concilier la rigueur journalistique et ton engagement personnel sur ces sujets ?
Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout militant. Je suis proche d'aucun partout, d'aucun parti. Vraiment, je ne me sens pas militant. Tu vois, je n'ai jamais été dans les organisations et tout. C'est vraiment pas du tout ce que je fais. C'est pas qui je suis. Moi, je suis vraiment journaliste. Et en tant que journaliste, mais comme plein de gens dans plein de métiers, j'estime que mon métier doit servir à quelque chose. Et donc, il y a des bonnes et des mauvaises manières de le pratiquer. Et donc, moi, je me bats. Je me considère plus comme engagé que militant. Alors, c'est une nuance sémantique. Pas forcément hyper importante pour le grand public. Mais en gros... Moi, je veux que mon métier serve à mieux informer les gens sur la crise climatique. Et donc, j'aimerais bien que mes confrères et mes consoeurs, eux-mêmes et elles-mêmes, montent en niveau sur ces questions-là. Et donc, je me bats pour transformer mon métier et pour permettre à tout le monde... Enfin, je veux dire, si t'es journaliste et qu'à aucun moment tu t'es dit que t'avais un rôle à jouer dans le débat démocratique, machin, c'est que... Enfin, est-ce que c'est vraiment du journalisme, tu vois ? Alors, il y a des formes de journalisme où c'est un peu plus tranquille, genre le sport. Mais tu vois, le journalisme sportif, il devrait pas être décorrélé des enjeux politiques et sociaux de la société. Et je me souviens, moi, je bossais à Mediapart à l'époque du révèlement de la révélation des Football Leaks, fuite majeure de documents sur le monde du foot. On découvre que Cristiano Ronaldo avait fraudé, le chiffre était dingue, 150 millions d'euros au fisc espagnol. Pas un petit truc. À part l'équipe, quasiment aucun média sur le sport n'avait voulu relayer cette information-là, alors que 150 millions d'euros, enfin c'est quand même une dinguerie, quoi. Mais si, il a pris du ferme pour moins que ça, tu vois. Et donc, même quand t'es journaliste sportif, tu devrais pas te penser en dehors de la société, tu devrais considérer que bah, y a quand même des informations qui sont pas juste purement sportives. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette exigence vis-à-vis de mon métier de journaliste, et donc en ce sens-là, je suis engagé. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment dire que je ne sais pas parce qu'on est engagé, qu'on a envie de changer les choses, qu'on est politisé, qu'on est proche de telle ou telle force politique. C'est hyper important de le préciser quand même.
Merci, et bah, c'est un bon mot de la fin pour le rôle du journaliste finalement dans cette crise climatique. Donc merci beaucoup Lou d'avoir participé à cette émission, et on remercie François qui était à la technique.
Merci François.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie ! Quoi ? Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 ! Ah, sur Campus Grenoble 90.8 ! Oui !